type de politique incarnée Fouché. En fait, ce texte est... voilà, c'est une... Enfin, je ne vais pas vous le répéter ou le détailler. Moi, je suis journaliste. J'écris ce texte à l'époque où je suis un peu le seul à avoir dévoilé toute la part d'ombre de la présidence de François Mitterrand. Je le ferai, comme vous le savez, sous d'autres présidences. Je le fais avec les armes de notre métier, avec un seul code de la route, qui est la loi de 1881. Joseph Fouché a servi le pire ennemi de la liberté de la presse dans notre pays, qui fut premier consul et qui fut empereur, qui ne supportait pas son pluralisme. Moi, je ne fais pas de fiches, je ne pose pas de micro, je n'espionne personne, je publie des informations d'intérêt public. Quand j'écris ce texte, à l'époque, mes enquêtes sont dans un journal imprimé qui s'appelle Le Monde. Quel est notre matériau à l'époque? Ce sont des rapports, ce sont des documents, ce sont des témoignages. Évidemment, parfois, ces rapports, ces documents sont protégés par des secrets. Mais la règle dans notre République et dans la jurisprudence républicaine, c'est qu'il y a une balance de droit. C'est-à-dire qu'il y a parfois le droit de savoir l'emporte sur ces secrets. L'emporte sur les secrets qui indûment protègent des informations d'intérêt public. C'est ce que nous avons fait à chaque fois dans toutes les révélations que nous avons pu faire. Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du numérique. Il y a plein de machines autour de moi. Notre matériau, à nous, journalistes d'enquête, ce sont des textes, ce sont des témoignages, mais ce sont aussi des vidéos. L'affaire Benalla commence par des vidéos. Ce sont aussi des photos. Parfois, il y a des photos qui permettent d'établir des faits. Et puis, ce sont aussi des audios. C'est le cas des audios Bettencourt, c'est le cas de l'audio Cahuzac, c'est le cas, évidemment, des audios récemment de M. Benalla et de M. Kraz. À chaque fois, et nous en répondons encore une fois dans le cadre de la loi de 1881, notre règle, c'est de vérifier, de recouper, de s'assurer de l'authenticité, de la loyauté, du fait que tout ça ne soit pas trafiqué. Et ma responsabilité, soit de journaliste qui écrit, soit de directeur de publication, c'est de s'assurer que ce sont des informations d'intérêt public qui ne portent atteinte à l'intimité de personne. C'est ce que la justice a tranché dans le cadre des enregistrements Bettencourt, puisqu'elle nous a relaxés, d'ailleurs ainsi que le majordome. C'est ce qu'évidemment la justice a dit dans l'affaire Cahuzac. Et c'est évidemment le cas des enregistrements Benalla, qui à ce jour ne font l'objet d'aucune poursuite et d'aucune plainte. Ce sont des informations d'intérêt public. Et je ne suis pas policier, je suis journaliste avec la même carte de presse depuis 1976. Je ne suis ni auxiliaire de police, ni auxiliaire de justice. Je suis au service du droit de savoir des citoyens. Et sans nous, sans Mediapart, il y a beaucoup de choses que nos citoyens ne sauraient pas. Ils n'auraient pas su le financement libyen de la campagne de M. Sarkozy. Ils n'auraient pas su l'affaire Karachi. Ils n'auraient pas su l'affaire des caisses d'épargne. Ils n'auraient pas su l'affaire Bettencourt. Ils n'auraient pas su, bien avant MeToo, la question des violences et des agressions sexuelles dans des lieux de pouvoir, ce pouvoir masculin qui se passe du consentement des femmes. Et ils n'auraient pas su tous les rebondissements récents de l'affaire Benalla, les passeports diplomatiques, le contrat russe, la violation du contrôle judiciaire. Heureusement qu'il y a des journalistes qui font ce travail-là. Face à eux, ils ont, comme souvent, les avocats du pouvoir. Ils existent, ils sont nombreux. Ils peuvent être de très bons avocats et de très bons plaideurs, avec de fortes voix et un physique impressionnant. Mais il n'empêche qu'ils défendent les puissants. Nous, nous sommes, encore une fois, au service de ce droit de savoir. Et d'ailleurs, je crois que le succès de Mediapart et la popularité de Mediapart font que personne ne s'y trompe. C'est ce qui fait le côté Robin des Bois de Mediapart. Nous prenons des secrets aux puissants et nous les donnons au peuple parce que ce droit de savoir est plus essentiel que le droit de vote. Mais comme vous ne prenez pas de notes ni n'enregistrez, je pense que vous n'êtes pas venu pour faire tout à fait un reportage.
Bon. Je suis venu pour vous écouter.
Oui, bien sûr, mais comme c'est une conférence de presse, je réponds aux confrères qui travaillent.
Moi, ce que je fais un peu, c'est justement, je me suis dit, pour moi, Mediapart, j'ai eu l'occasion de voir Laurent Meudry, j'ai vu faire des articles dans plusieurs conférences, ouais. Et pour moi, Mediapart, c'est un peu la magie. C'est
la magie. Il n'y a pas de tour de magie.
Non, mais c'est la magie, c'est un endroit qui est caché où on ne voit pas. Et ce qui m'a surpris en voyant le film, c'était qu'on ouvrait les portes. Et je me disais, mais il y a deux questions que je me suis posées. C'est premier point, quel est l'objectif? Et deuxième point, je me suis dit, mais avec ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, n'y a-t-il pas un risque de se mettre en scène, de se mettre un peu devant?
Alors, en tout cas, la première question, je la prends pour moi.
Oui.
L'objectif, alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que, moi, ce que je fais, c'est du documentaire, c'est pas du reportage. Et je crois que la distinction se trouve dans la surprise. Quand on commence un film, on a des intuitions, on a des idées, on a des désirs. On ne sait pas où on va. La première chose, c'était vraiment de aller depuis ce lieu qui était le lieu qui manquerait politiquement à la France. Je lis Mediapart depuis 2008, depuis le début du journal. Et depuis le début du journal, c'est ma prière du matin, enfin, vous connaissez l'expression. Non, mais c'est vrai, ça commence avec ça, ma journée commence avec ça. Souvent se termine avec ça, depuis qu'on lit ça sur les téléphones aussi. Et c'était une façon de m'ancrer dans le réel. En 2015, en novembre 2015, au moment où j'ai l'idée du film, c'est un moment d'une grande confusion politique. Et Mediapart était le lieu où j'allais réfléchir, enfin où j'allais mettre mes idées m'ancrer quoi. Donc l'objectif, je sais pas. Une chose est sûre, c'est qu'il y a eu le désir d'aller chercher dans cet endroit virtuel le concret de cet endroit virtuel, enfin de parce que ça m'aidait à penser. Et donc l'idée, c'était de donner des outils avec l'outil. Voilà, l'outil Mediapart, qui était un outil pour moi politiquement. Enfin, j'ai grandi avec Mediapart, c'est-à-dire entre 2008 et 2017, le journal a changé, j'ai changé, et je crois que j'étais en dialogue permanent avec cette rédaction, de façon imaginaire, évidemment. Bon, après, il y avait les files de commentaires, enfin, c'est un média participatif, hein, donc on se retrouve souvent dans des... c'était aussi des communications bien réelles. Mais donc, il y avait cette envie. Voilà, si objectif il y avait, c'était ça. C'était chercher les questions depuis le lieu où elles me semblaient énoncées de la façon la plus pertinente. Je pense, à part ça, que vraiment, nous sommes la génération Mediapart. C'est ma génération. Elle a grandi avec ce journal. On a appris à aller chercher les nouvelles comme ça aussi. Et Mediapart donne du sens à un outil qui est très foisonnant, parfois très confondant. Et je crois que j'avais cette ambition. Après, je ne sais pas, le temps dira si le film a fait son travail. Mais j'avais l'ambition de donner ça en partage. Voilà.
Alors sur l'autre question, d'abord, en effet, le film de Naruna, comme vous avez compris, hein, Naruna, c'est son journal. Un journal, il appartient à ses lecteurs. C'est ce qui fait la réussite d'un journal, c'est qu'il ait des lecteurs, et ses lecteurs ont des droits sur lui. Comme on dit souvent à Mediapart, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de mécène privé, il n'y a pas de subvention publique. Et bon, voilà, son métier est d'être cinéaste, et elle a blogué sur ce journal, elle a grandi avec ce journal et elle a proposé de planter sa caméra. On a eu une discussion, on a accepté. À partir du moment où elle plantait sa caméra, elle faisait ce qu'elle voulait. C'est son regard. On n'avait pas de droit de regard. C'est pour ça, c'est pas Mediapart, c'est depuis Mediapart. C'est comment elle, et peut-être y a-t-il d'autres regards sur Mediapart. Pourquoi on a dit oui? Certes, sans aucun doute, parce qu'on avait confiance, mais aussi pour la raison que vous posez, qui est de soulever le capot. On est encombré, Mediapart. On est encombré par quoi? Par une moustache. Elle est
incontournable.
Oui, mais justement, elle est beaucoup trop encombrante. Mediapart, c'est pas moi. C'est moi, bien sûr. Bien sûr qu'on a été... on est quatre cofondateurs. J'ai porté ça, je suis un peu le crieur de Mediapart. Bon, ok, bien sûr, je ne me dérobe pas et je ne joue pas une fausse modestie. Mais je dis que le succès de ce journal, sa vie interne, son fonctionnement, n'a rien à voir avec l'image publique qui en est donnée. Et une image publique où en plus se mêle quelque chose qui ne va pas, y compris la première question l'illustrait, c'est que moi j'ai une vie avant Mediapart. Et une vie avant Mediapart où la plupart de ceux qui font Mediapart aujourd'hui n'étaient pas nés. Quand je fais l'affaire Greenpeace en 85, ils n'existent pas pour beaucoup, ou ils sont tout petits. Donc il y a l'équipe de Mediapart à l'âge de ma fille. Il y a un gap de donc c'est ce qui est formidable, hein, c'est cette transmission. Mais ça veut dire que c'est insupportable pour l'équipe de Mediapart de se voir en permanence ramenée à une histoire qui préexiste, c'est-à-dire l'itinéraire professionnel de son plus emblématique fondateur. Et donc, ouvrir les portes à Naruna, c'était aussi jouer sur cette complicité-là. Comme elle dit, c'est son journal et cette rédaction, c'est sa génération. Et les gens qu'elle filme, pour l'essentiel dans le film, c'est sa génération. Ce sont des gens comme elle, de son monde, hein, qui boivent les mêmes bières, qui discutent des mêmes choses, qui ont les mêmes passions ou les mêmes interrogations. Donc, pour moi, la réussite du film, c'est ça. C'est un film qui dit une vérité de Mediapart qui est totalement démystificatrice par rapport à la vision qu'on en a de l'extérieur, avec toutes les cabales et toutes les personnalisations et tout. Alors, par ailleurs, sur l'autre question, bon, je touche du bois, mais comment dire, nous ne sommes pas dans la même situation que Charlie Hebdo, hein, par rapport à des menaces terroristes, géopolitiques, qui avaient une dimension tout à fait menaçante. Et par ailleurs, mais peut-être on peut être en désaccord avec moi, je pense que nous sommes dans des sociétés ouvertes. Et on ne peut pas faire un journal en étant fermé à double tour, en ayant des policiers autour de vous. Bon, voilà. Il faut essayer, évidemment, de ne pas être imprudent. Il faut essayer de ne pas jouer, de ne pas s'exposer à des fous. Mais ça peut arriver, hein, et ça nous arrivera peut-être. Et voilà, on reçoit aussi des menaces. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'ai été déposé une plainte au commissariat. On a parfois des visites un peu bizarres, bien sûr que ça arrive. Mais je ne suis pas pour ajouter de la surveillance à la surveillance. D'abord, notre meilleure protection, c'est le soutien du public. Et c'est ça qui nous protège.
De ce côté-là, le film est très bien fait. Parce que vous et Louis Plenel, vous êtes très... je dirais pas en retrait, mais très, très peu présent finalement, hein, si on faisait le compte des minutes. Et on voit bien, je ne sais pas si c'est l'ensemble, en tout cas énormément, hein, de ceux qui travaillent là, avec d'ailleurs des générations différentes, hein, parce qu'il n'y a pas que des gens de 30 ans. Hein, et donc, le spectateur, hein, pénètre effectivement, hein, dans l'univers Mediapart, tel qu'il est actuellement.
Justement, allez-y. Vous avez souvent, on voit à plusieurs moments, vous arriver face aux gens qui ferment leur ordinateur en train d'être ou complètement désespéré face à un résultat d'élection, disant depuis quand le résultat d'une élection est la fin de l'espoir. Est-ce que vous avez vraiment beaucoup ce rôle-là face à vos plus jeunes rédacteurs?
Je ne sais pas, mais comment dire, le bonheur pour moi, Mediapart, c'est cette relation-là qui est... comment dire, qui est une histoire de transmission. Bon, moi, j'ai défendu depuis longtemps quelques principes, quelques valeurs dans ce métier. Ça me vaut, y compris dans ce métier, pas mal de coups et d'animosité parfois. Et d'une certaine manière, l'accomplissement de tout ça, c'est Mediapart, puisqu'on a réussi à créer quelque chose où il n'y a pas de fil à la patte, où on a réussi à créer ce lien générationnel, à ce que ce soit une réussite, y compris en termes d'entreprise, hein, puisque aujourd'hui, Mediapart, c'est près de 100 salariés, c'est sur 11 ans, c'est 8 années profitables, il n'y a pas d'endettement, il y a des économies, enfin bref, on a réussi tout ça. Et donc, c'est vrai que je dis souvent que je suis le bouclier de Mediapart. Je suis là pour protéger cette histoire. Et aussi, en effet, pour lui donner confiance en elle, pour qu'elle ait confiance, pour que cette histoire, elle va appartenir à toute cette équipe. Elle lui appartient déjà, mais elle va lui l'appartenir vraiment. On ne va pas vendre Mediapart, on ne va pas transmettre Mediapart de manière patrimoniale. C'est cette équipe que vous voyez qui va, et c'est déjà le cas, hein, dans le film, vous avez François Bonnet, le cofondateur et directeur éditorial. Depuis, il a passé la main à un tandem paritaire qu'on voit dans le film. Par ailleurs, surtout l'un d'eux, Stéphane Alliès et Karine Fouteau, qui ont la quarantaine, et c'est eux qui font le journal au jour le jour aujourd'hui. Donc oui, je crois quand il y a des, comment dire, quand il y a des polémiques comme les polémiques autour de l'affaire Benalla, des attaques comme celle de M. Dupond-Moretti récemment, enfin, je suis là aussi pour conforter, pour expliquer, pour répondre aux détracteurs, ce que j'ai fait la semaine dernière. Voilà, oui, j'ai ce rôle-là, peut-être que en plus, ça y est, les cheveux commencent à blanchir, donc ça y est, ça va un peu plus visiblement assumer son âge, j'ai 66 ans, hein, donc voilà, c'est vrai, il y a un côté, il ne m'appelle pas papy encore, mais il y a un petit côté comme ça, oui, probablement.
Vous avez donné des consignes aux acteurs? Alors j'appelle ça des acteurs, je fais exprès.
Jamais. Vraiment, jamais. J'aurais pu, hein, pas leur demander de rejouer quoi que ce soit, parce que ce serait évidemment cataclysmique, je me suis attachée à ne pas intervenir du tout. Le film est jalonné de courts entretiens. C'est vrai que c'était pas nécessairement prévu qu'il soit au montage. C'était plus des moments où je les retrouvais pour faire le point. Et en même temps, j'ai trouvé que ça apportait quelque chose aussi. Et puis, bon, la scène de l'après, de second tour, s'est imposée quand même comme un moment un peu paroxystique. J'avais envie de qu'il y a d'autres moments d'entretien au cours du film. Mais non, pas de consignes au héros et du film. Non.
Et comment s'est passé en fait ce documentaire, dans le sens où est-ce que vous aviez déjà une idée que vous alliez faire un petit peu les moments d'action, donc quand on va sur le terrain, quand on assiste à des meetings, qu'on pose des questions, etc., puis les moments un peu off, donc les moments plutôt de détente, où il y a un apéro, où certaines parties, oui, des bières, du vin rouge, etc. Certaines parties de la rédaction aussi, peut-être parfois reste, voire suivre en direct, avoir cette information-là en direct et à chaud. Mmh. Donc, comment ça s'est structuré en fait? Est-ce que vous avez filmé beaucoup, 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 et c'est au montage que vous avez dit je vais faire du 50-50, ou est-ce que vous aviez déjà en tête en fait que vous alliez avoir un certain équilibre en fait entre
les moments? Alors, le film au départ était écrit comme un road movie. Enfin, j'allais suivre les journalistes sur le terrain, dans les enquêtes. Ce qui s'est passé, et ça a surpris presque tout le monde, c'est qu'on n'a pas du tout eu de financement pour le film. Du tout. Bon, ça arrive. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir la bourse Brouillon d'un rêve de la SCAM, qui est une bourse dur à avoir, mais qui est formidable, qui est pour l'auteur. Mais aucune télé n'a préacheté le film. Pour le documentaire, c'est toujours compliqué. On a eu le premier tour du CNC à l'unanimité, et puis on s'est... Ah, on n'a pas eu... Alors, bon, je pense que le dossier, que j'ai été forcément pas assez bon, je crois qu'il y a aussi des questions politique, où c'est compliqué pour un... Enfin, il y a des chaînes qui nous l'ont dit, hein, que c'était compliqué pour eux de donner une heure et demie d'antenne à Mediapart, qu'au niveau... Et il faut quand même se rappeler, parce que ça semble lunaire aujourd'hui, mais à l'époque où les dossiers, le financement, on a lancé le financement, c'était Alain Juppé qui allait être président de la République, vous vous souvenez? Enfin, il y avait aussi ça qui était... en jeu. C'est-à-dire que c'est et du coup le film c'est l'amplitude du tournage a été rétrécie par des questions d'argent. Et je trouve que le huis clos en fait, ça s'est très vite imposé comme.
C'est ce qui fait la beauté du film.
Je pense.
Parce que il y a quelque chose qui est vraiment très fort pour moi, parce que, qui est moi, ce qui m'a beaucoup ému, elle le sait maintenant depuis, si j'arrive à la maîtriser, c'est que comme on est dans cet open space, mais c'est étroit comme ça, c'est, donc elle filme, voilà, et du coup, ils sont, comme je dis, ils sont beaux, ils sont beaux. Voilà, il y a une beauté de cette rédaction, de cette jeunesse, de cette vitalité, de gens qui aiment leur métier, qui se battent pour leur métier, qui travaillent, qui discutent, qui sont accrochés, et ça passe, ça, et ça passe, ça, et ça, je trouve ça...
Mais je suis d'accord hein, que, quelque part, le huis clos, il s'est imposé aussi, parce que il y avait un dialogue avec le monde, enfin, c'est, je veux dire, un huis clos dans un bureau, c'est rien s'il n'y a pas toutes ces ouvertures. Et c'est la parole qui anime toutes ces conversations. Elle est complètement portée vers l'extérieur. Elle n'est jamais nombriliste. Enfin, c'est ça qui fait la beauté de ces personnages. Oui.
Justement, vous avez dit qu'il y a des problèmes avec certaines choses qui se trouvent à l'écran qui n'auraient pas pu sortir en fait, sur le site.
Alors, non.
Il y a plusieurs moments, par exemple, c'est sur certaines listes qu'on ne peut pas publier telles quelles parce que ça mettrait en danger une source, par rapport à l'histoire qu'elle raconte.
Oui, c'est le travail de. Ça montre le travail, ça montre oui. Notre artisanat.
Avant que qui que ce soit. Évidemment à l'exception de la monteuse et le producteur, ceux avec qui je travaillais, mais avant que le film sorte dans le monde, il avait été validé par la rédaction, pas dans un truc de censure, mais tout simplement, il y avait, par exemple, la seule chose que j'ai retoquée, c'est à un moment, il y a le nom d'une source qui est prononcée. Donc j'ai changé la disposition de la séquence pour que, et ce listing, en fait, au moment où il a été tourné, il n'était pas question de le divulguer. Mais plus, voilà, même plus, enfin, 6 mois plus tard, c'était déjà. Voilà. Mais il y a eu cette question autour de ça a été posée. Il y a eu d'autres choses aussi qui maintenant sont dans les bonus, mais qui.
Mais le nom d'une source, je veux dire, là, c'est de notre faute si le nom d'une source a été prononcé. Parce qu'il y a une vieille règle à Mediapart, c'est que les sources, on leur donne toujours des surnoms.
D'accord.
On ne les appelle jamais.
Mais c'était un surnom. C'était pas un nom. C'était un surnom. Oui, mais on ne pouvait pas mettre le surnom non plus. Non, d'accord. C'était
pas. D'accord, mais voilà. Non, c'était un surnom. On ne prononce jamais. Mais ça, c'est. Ça, c'est bien avant qu'il y ait toutes ces machines. J'ai comme règle qu'une source, on doit toujours lui donner un surnom. Pourquoi ? Parce que si. Comme c'est vraiment le trésor qu'on doit protéger, le secret des sources. Et si vous ne leur donnez pas de surnom, vous risquez un jour de vous couper. Au téléphone ou ailleurs, et de dire le nom de la source. Donc, il faut toujours leur inventer. Voilà, donc on invente des surnoms à nos sources.
Mais là, c'était le cas. C'est vrai que je devais... C'était un nom qui n'en était pas. Hein.
Ah, d'accord.
Mais après, c'est vrai que c'est... Non, mais tu voulais poser une question, pardon.
Oui, moi, c'est plus par rapport à... Armand, vous avez un échange, donc... sur la manif pour tous, je crois. Et donc, M. Pinel dit il ne faut jamais diaboliser. On ne diabolise pas chez Mediapart. Voilà. Ouais. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, c'est plutôt les autres qui ont tendance à diaboliser Mediapart ?
Ça, je suis habitué depuis longtemps. J'ai été successivement au KGB, à la CIA, judéo-bolchevique, islamo-trotskiste, ou islamo-gauchiste, enfin, passons, voilà. Moi, je suis habitué. Simplement, la jeune génération, il faut qu'elle s'endurcisse, apprendre que dans notre métier, il faut avoir la morale d'un boxeur. Le boxeur, il doit d'abord encaisser. Hein. Bon, voilà. Donc, moi, je vais dire, comme je dis, je suis habitué, mais je ne m'y habitue pas. C'est une posture, parce que je trouve ça très injuste. Autant on peut nous critiquer à la loyale, autant je trouve toutes ces calomnies, tous ces trucs un peu fantasmés. Là, je ne sais pas, dans la dernière période, nous sommes la Stasi, nous sommes un service de renseignement qui poserait des machines pour... Enfin, c'est n'importe quoi, pour dire les choses clairement.
Et comment vous expliquez que vous attiriez autant, justement
de... Je vais vous dire, je pense qu'il y a un vrai problème de culture démocratique en France, dont le débat sur le journalisme est le témoin. L'intensité de la culture démocratique. fait que la démocratie, c'est des droits fondamentaux compliqués, hein, qui un écosystème où ça s'affronte, où c'est en conflit. Je prends un exemple dans le débat anglo-saxon, notamment américain, et Dieu sait s'il y a, peut y avoir des polémiques, il est banal de dire « a free and independent press ». Quand Obama rend hommage à John McCain, qui était républicain et qui était quelqu'un qui s'opposait à lui, mais il va faire un discours lors de ses obsèques, et il dit « on était en désaccord sur beaucoup de choses, mais on partageait la conviction qu'il faut a free and independent press, une presse libre et indépendante ». Essayez de chercher chez un politique français de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre droit, du centre gauche, l'expression une presse libre et indépendante. Jamais. Vous trouverez des appels à la responsabilité de la presse. Encore récemment, M. Macron a parlé d'une, il nous faut une presse neutre, un journalisme neutre. Non, ça n'existe pas. Enfin, et ainsi de suite. Donc vous avez à tous les pôles de l'échiquier, et je l'ai vécu sur toutes sortes de présidents, hein, de tendances bien différentes, vous avez une détestation de ce principe fondamental, qui est le droit de savoir des citoyens. Nous, on est au service de ce droit fondamental, qui est pour moi plus important que le droit de vote. Si je ne suis pas informé de ce qui est d'intérêt public, ben je vote comme un aveugle, donc je peux voter pour mon pire ennemi, pour mon pire malheur, et par les temps qui courent, ça arrive. Il y a des régimes autoritaires qui naissent d'un vote et pas d'un coup d'État aujourd'hui. Bon. Et donc, voilà, je pense que ce n'est pas le problème du journaliste, ce n'est pas le problème de Mediapart, ce n'est pas le problème de ma personne. Je crois qu'on est une plaque sensible qui révèle ça. Hein. Cette détestation d'une vision, en fond, assez radicale du journalisme. Moi, mon engagement, il est professionnel depuis que j'ai... je fais le métier de journaliste, c'est-à-dire depuis maintenant 43 ans, c'est ça, voilà. Donc, oui, c'est ça, depuis 76, ça fait 43 ans, c'est ça. Et donc, voilà, c'est notre... Et je crois que c'est ça, l'explication. Il y a un journaliste de gouvernement, un journaliste de complaisance, un journaliste de commentaires, un journaliste d'opinion. Et on a beau faire, puisque quand même, en 11 ans, tout le monde peut s'accorder au fait que Mediapart fait un journaliste sérieux, un journaliste documenté, un journaliste rigoureux, un journalisme qui défend les canons de la tradition du métier, mais en essayant de la rénover à l'heure du numérique. Et au lieu d'en donner acte, je parle des sphères un peu dirigeantes, on est toujours vu comme quelque chose qui dérange. Et je crois que c'est un vrai... il y a un vrai problème. Dire derrière cette question du journalisme, il y a une vraie alerte sur la culture démocratique française et sur une certaine indifférence chez nous à la vitalité de cette culture démocratique. J'avais pris l'exemple quand il y a les navettes hein, de cette loi qui va restreindre le droit de manifestation. Et j'avais dit, attention, comme tous les défenseurs des droits humains, hein, comme encore récemment les organisations internationales de défense des droits de l'homme sur cette question du maintien de l'ordre en France, le droit de manifestation est un droit fondamental. C'est le droit d'expression qui permet de faire avancer des questions nouvelles, de les porter dans la rue et d'obliger les gouvernements à bouger. Alors évidemment, il y a des excès dans les manifestations. Et voilà qu'on a un gouvernement qui dit, comme il y a des gens qui abusent du droit de manifester, on va le restreindre. Je dis non. Un droit fondamental, ben, on sanctionne ces abus, mais on ne restreint pas ce droit fondamental. Et je dis ça à une émission de télévision un dimanche, et je dis, vous voyez, ça commence comme ça. Mais après, on va s'en prendre à d'autres droits fondamentaux. Par exemple, il y a une presse qui abuse de la liberté de la presse, qui sort des enregistrements qui nous dérangent, par exemple. Je dis ça le dimanche. Le lendemain matin, il y avait la tentative de perquisition à Mediapart ordonnée par le procureur de la République, hors de tout cadre juridique pertinent. Donc vous voyez bien. Et là, moi j'ai une vraie alarme là-dessus. J'ai une vraie inquiétude. Donc nous, on n'est que la plaque sensible de ça. Et on vit avec ça. Je ne sais pas, j'ai encore eu droit à ma tête en une d'un magazine cette semaine sur les islamo-gauchistes. L'année dernière, heureusement, ça a été interrompu par... heureusement. Pas pour lui, interrompu par la mort de Johnny Hallyday, j'étais l'homme qui inquiète la France, c'était la une de l'Express. Bon, Mediapart vit avec ça, Mais c'est... Si, je pense que derrière ça, il y a une forme de haine de la liberté. On est libre. On est libre économiquement, on est libre professionnellement, on est libre à l'intérieur de Mediapart. Il n'y a pas un marionnettiste qui donne des consignes. Vous les voyez travailler. Ils peuvent moquer les chefs, si, les fondateurs, je veux dire. C'est des relations d'atelier. C'est une vie d'atelier à Mediapart. C'est vraiment l'image de l'atelier des artisans qui sont autour de leur établi, qui discutent. C'est vraiment ça. Et moi, j'espère que de l'autre côté, je crois que quand même, pour beaucoup de gens... Pour ceux qui sont journalistes, et notamment jeunes journalistes, ça leur redonne confiance dans le métier. Je dis quand même, hein, on peut faire ce métier avec dignité et se battre pour lui. Et je pense que dans le public, ou autrement Mediapart n'aurait pas eu le succès qu'il a, ça redonne confiance dans l'utilité du journalisme. Donc voilà, il faut continuer. Il faut continuer son chemin.
Moi, je me posais la question, parce qu'on a la semaine de la presse à l'école qui va du 18 au 23 mars. Au sein des clubs de la presse dans toute la France, tout le monde est en train de se mobiliser. Nous, on a créé sur lui un groupe de travail. On a la grosse fête demain soir des clubs de la presse. Mais je me posais la question, est-ce que justement, il n'y a pas aussi une notion pédagogique là-dedans? Ou une notion de faire apparaître, je le dis en mettant des guillemets, un autre journalisme? Voilà. Est-ce qu'il y avait une notion pédagogique derrière votre idée? De montrer autre chose?
Non, parce que... Parce que
l'image des médias, si je peux me permettre, c'est vrai que l'image des médias aujourd'hui...
Mais oui, mais c'est parce que, mais c'est parce que il faut, parce qu'il faut faire quelque part. C'est comme, il y a eu ce slogan. Moi j'ai évidemment participé parce que c'est de mon époque aussi à des manifestations. Certains disaient altermondialistes. Vous savez ce slogan, un autre monde est possible. Moi je pense qu'un autre monde n'est pas possible en fait. C'est justement, il n'y a pas d'autre journalisme que celui-là, alors appelons ça autrement, c'est-à-dire qu'il y a la nécessité impérieuse, et là, moi, je ne fais pas de la pédagogie dans le sens où je ne suis que cinéaste, je ne suis pas, mais je pense qu'il faut, que quelque part, doit s'imposer aux rédactions ce type de rigueur et ce type d'obsession. Ce type d'obsession, ce type de rigueur. Je ne saurais pas dire ça mieux. Et parce qu'un autre monde n'est pas possible, parce qu'on partage tous le même monde et que politiquement, il faut qu'on se batte pour ce monde-ci, pas qu'on essaye de se replier pour en créer un autre, quoi. C'est ça qui est si beau avec Mediapart, c'est que Mediapart est de plein pied dans le monde. Ce collectif, il est composé de plein de sensibilités politiques hétérogènes. Il est, ce qui les lie, c'est une amitié politique. C'est l'amitié de gens qui se mettent ensemble pour quelque chose qui les dépasse, pour le bien commun de l'information, pour le common, comme il y a l'eau, il y a l'information. Sans ça, on est trop... Edoui parlait d'être aveuglé, oui, on n'est pas libre sans ça. Et il ne s'agit pas de faire un îlot de gens bien informés, il s'agit d'être égaux face à ça. Et donc, c'est un peu alambiqué comme réponse, mais je crois que la question de la pédagogie, si le film, encore une fois, peut créer des vocations, c'est ce que dit si merveilleusement bien Hélène Haïg à la fin du film, des histoires comme Baupin, c'est un an et demi avant Weinstein. L'affaire Baupin, elle arrive en France à un moment où, d'ailleurs, ce qui est rétorqué, la séduction à la française, enfin des choses qui aujourd'hui et j'espère pour longtemps sont tellement absurdes, enfin après MeToo, après Weinstein, c'est-à-dire c'est d'arriver à en s'appuyant sur la loi, en s'appuyant sur le bon sens, en s'appuyant sur des choses qu'on partage. Non, il y a quelque chose qui se passe, qui ne doit pas se passer. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on travaille ça dans l'espace public? Encore une fois, un an et demi avant Weinstein, sortir cette affaire, c'était d'un courage. Enfin, et Hélène Haïg Bredou, elle a travaillé 6 mois là-dessus, sachant qu'à l'époque, elle couvrait l'Élysée. Un petit truc, un truc. Enfin, voilà. Et donc, pendant 6 mois, elle n'a pas couvert l'Élysée. Elle a été aidée par d'autres de membres du collectif pour... Elle s'est consacrée à ça. Et quand même, enfin... Ben voilà, avec le risque, peut-être, ben ça n'aboutisse pas. Une enquête n'est pas une enquête avant qu'elle devienne une enquête. Ça, je l'ai appris aussi, parce qu'il y a des choses que j'ai filmées qui, ben, qui n'ont pas été, enfin, qui ne sont pas, parce qu'elles n'ont pas été publiées. Enfin.
Donc justement, est-ce que c'est comme ça que vous avez organisé votre film? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de passages où il y a le titre.
Oui.
Donc, est-ce que vous avez fait en sorte de dire « je ne garde que ce dont je peux proposer un titre, une que ce qui n'a été publié »
Alors, le film, c'est pas organisé comme ça, mais de fait, j'ai voulu le rythmer avec les écrans dans l'écran. Ça faisait partie des choses que j'avais vraiment envie de mettre en scène. Oui, non, enfin, c'est... Ben, parce que quelque part, la façon dont on travaille, on lit l'information, a changé avec Mediapart. Enfin, on lit plus le journal pareil depuis ce moment où Internet est devenu... espèce de flux qu'on connaît. Et du coup, j'avais envie de voir les mots, je trouvais ça important. Parce que parfois, les journalistes s'interrogent sur une formule, un titre, un chapeau. Et je voulais que ça apparaisse. Là. D'où l'affiche aussi.
D'accord. Et en fait, c'est surtout ce qui est très impressionnant, c'est que les gens sont tout le temps sur leur téléphone. Et donc, au début, on se dit juste, dans les réunions, ils ne s'écoutent absolument pas. Mais pas du tout. Ils posent le téléphone, ils répondent. Tout le temps. Donc, c'est ce qui est évoqué un tout petit instant par la voix off qui dit juste avec le passage numérique,
ouais.
On n'est plus soumis aux presses. Et donc, qu'est-ce que ça change, en fait? Est-ce que c'est pour ça qu'il y a...
D'abord, faut dire...
Comment ça fonctionne, la Mediapart? Est-ce qu'il y a tout le temps des gens qui travaillent, tout le temps qui écrivent? Il n'y a pas d'heure?
C'est des super-héros,
hein,
par ailleurs.
Enfin, non, justement. Là, il y a un effet campagne électorale.
Ouais,
là, les soirées et tout, il y a un effet campagne électorale, soirée de campagne électorale, de résultats, d'émissions, d'événements, de live et tout, qui donne cette expression un peu nocturne et sur la réalité de Mediapart. Mediapart n'est pas en flux, hein, c'est 3 éditions par jour, c'est la conférence que vous voyez là à 10h30 tous les matins. Voilà. Puis à partir de là, il y a un travail qui s'organise avec la particularité de Mediapart, c'est que au fond, il y a une... qui en fait, comme il dit, c'est des super-héros, qui fait que c'est un grand défi de travailler à Mediapart, c'est qu'il y a une très grande liberté, mais du coup, s'il y a une très grande liberté, il y a une très grande responsabilité. Hein, il faut produire quelque chose qui fait la distinction, qui fait la différence. Voilà. Et donc, ça, c'est vrai que ça pèse, et même si ce n'est pas le sujet du film, ça a posé en 10 ans à Mediapart des questions aussi de qualité du travail, de souffrance au travail, de temps de travail, d'apprendre à la déconnexion et à savoir arrêter de contrôler, d'être branché à ces machines. Tout ça, ça fait partie aussi de ce que Mediapart, entre le point de départ où on est 25 et aujourd'hui on est près de 100 salariés, bah, on a appris aussi à gérer tout ça. Comme ce n'est pas dans le film, mais vous voyez, traiter l'affaire Baupin, il y a eu le procès là où j'étais, hein, puisque c'était moi, c'est le directeur de publication qui est poursuivi. Hein, donc j'ai passé tout accompagné avec Lénaïg, on a été toute la semaine à ce procès, j'espère que le jugement va bien retourner en jugement de Baupin, de celui qui en plus a eu l'outrecuidance de nous poursuivre. Mais par exemple, une affaire comme celle-là, qui est donc faire surgir à l'agenda du débat public mutatis mutandis, c'est comme avec Cahuzac, on fait surgir la question de l'évasion et de la fraude fiscale. Ben là, on fait surgir la question des agressions et des violences sexuelles dans des lieux de pouvoir. Hein, voilà. On fait surgir des questions qu'on connaissait, qui existaient, qui sont documentées sociologiquement, économiquement pour l'évasion fiscale, intellectuellement, avec y compris des travaux de psychiatres, de psychanalystes sur les conséquences. Voilà, bon, on sait ça. Mais autre chose est de les faire surgir dans le débat public et dire c'est une question d'intérêt public. Donc on a fait ça avec Baupin, mais le fait d'avoir fait ça avec Baupin ne nous a pas laissé nous-mêmes indifférents. Ça a amené à Mediapart, ça je l'ai dit devant le tribunal, ça a amené au sein de Mediapart, je le dis au tribunal en expliquant que ça nous a amené à une réflexion interne à Mediapart. Il y a eu une assemblée des femmes de Mediapart qui a produit un texte, toutes les femmes de tous les services. Comment on parle des femmes dans Mediapart, comment à l'intérieur de Mediapart on vit ça, la question de l'égalité. Bon, puis ça a fait surgir parfois une libération de la parole sur des choses qui avaient pu arriver dans le passé. J'ai dit ça cette semaine-là, je témoigne le lundi, c'est le jour de la perquisition. Le lendemain, il y a un petit échange sur Twitter où tout d'un coup surgit une petite libération de la parole sur l'histoire de la Ligue du LOL, qui, moi, était passée sous la ligne de flottaison. Vous connaissez la suite. Hein, aujourd'hui, tout ça a été déballé et a produit, évidemment, le départ de... Et c'est intéressant, de gens qui étaient tout à fait fiers d'être dans l'univers du numérique, mais se comportant en jeunes mâles conquérants du numérique et, évidemment, choisissant comme cible... Et ça, c'est l'épopée gigogne de la discrimination des femmes, des homosexuels et des personnes qui n'ont pas la même couleur ou la même apparence ou la même croyance que racisées, comme on peut le dire. Voilà, en tout cas, de minorités discriminées. Et donc, je dis ça pour dire que, voilà, c'est une illustration de... ce que elle a filmé 300 heures, Naouna. Vous avez 1h40. 300 heures. 1h40. Donc, derrière ça, il y a tout ça, il y a ce bouillonnement-là qui est... Mais pour répondre encore une fois à votre question, c'est vrai qu'il y a un engagement à Mediapart. Il y a un fort engagement. Parce que c'est une aventure de liberté. Hein. Voilà. Allez-y.
On va peut-être juste faire une ou deux questions, parce qu'après, je crois qu'il y a Marc qui veut faire une petite captation vidéo, puis on peut faire une petite pause avant de reprendre.
Non, voilà. Ça va.
D'accord.
Vous n'avez pas la question est un peu. Est-ce que la période était bien choisie? Parce que vous êtes bien tombé dans cette période. Et si vous deviez refaire le film aujourd'hui, est-ce qu'il serait de la même manière? Parce qu'on était quand même dans une période électorale, présidentielle.
Alors, ça, c'était une idée. C'est-à-dire, l'idée m'est venue en novembre 2015, quand j'en ai parlé avec Serge Laloux, qui est le producteur du film. Il m'a proposé de cadrer ça avec la présidentielle comme pour donner un cadre, c'est-à-dire une fenêtre. Très franchement, je pensais que la campagne allait être assez je ne sais pas si tranquille, mais que l'événement politique qu'était la campagne présidentielle serait peut-être moins proéminent, c'est-à-dire que la question de du vote de l'extrême droite, des enjeux comme ça d'un débat politique, elle était déjà présente. Enfin, faire du cinéma-fiction et imaginer qu'est-ce que ça aurait été un film autrement, c'est comme la politique-fiction, je ne sais pas. Mais je suis très contente d'avoir filmé cette campagne folle et trépidante, peut-être plus que c'était prévu, mais ouais.
Vous vouliez poser. Oui. Pardon, allez-y.
Moi, j'avais une autre question, du coup, par rapport à Mediapart, qui est tout le temps, en fait, dans l'information qui arrive, finalement, un documentaire, c'est aussi un moyen de fixer quelque chose et de poser, en fait. Et peut-être que ça peut être intéressant aussi, je ne sais pas si vous, du coup, vous avez utilisé, en fait, cette possibilité de figer, de prendre du recul, finalement, sur... une ambiance qui est tout le temps à chaud pour évoluer différemment, pour prendre exemple sur des jeux. Est-ce que ça a été un support, en fait, pour apprendre?
Moi, c'est marrant, je ne vis pas Mediapart comme quelque chose où on est toujours à chaud. Je ne sais pas comment vous dire.
Il y a une question un peu sur la temporalité aussi. À un moment, vous dites, avant, on avait le temps, maintenant, cette temporalité est plus difficile.
Mediapart, on a le temps, au contraire.
Mais c'est ça.
Notre obsession, c'est de maîtriser. On ne se laisse pas dicter le temps. Vous voyez ce que je veux dire? On ne se laisse pas dicter le temps.
Mais
on a notre
temps, en fait, le temps est quelque chose qui n'existe plus. Donc, en fait, on est dans cette...
Non, sincèrement, le fait qu'il y ait trois éditions, qui est vraiment un choix de départ, parce que, bien sûr, qu'il y a eu le modèle économique, mais l'idée de dire, quand on invente Mediapart, sur le papier, je dis, il n'y aura pas de flux. Il y aura trois éditions par jour. 9h, 9h, 13h, 19h. 7 jours sur 7, trois éditions par jour. Et y compris, ça rejoint la vieille presse qui faisait parfois plusieurs éditions. Alors parfois, il peut nous arriver, dans le cas des leaks qui sont un truc international où on sort à un autre moment, il peut nous arriver. Mais globalement, notre rythme est choisi. Il y a un tour de bête sur la direction éditoriale, il y a un journaliste de permanence pour faire le fil d'actualité. Mais autrement, on construit toujours. Voilà, on se dit, tiens, tel papier, on va attendre à tel moment, tel là, on va faire un ensemble. Et donc, je ne vis, comment dire, il y a un engagement, il y a une passion, pourrait-on dire. Mais je ne vis pas du tout Mediapart comme quelque chose où on serait dans le flux,
non,
et comme des hamsters, vous voyez, dans la cave, dans la cage.
Voilà. Je voulais plus dire d'avoir l'information, en fait, qui arrive, et on n'a pas forcément le temps de prendre du recul sur cette information. Alors,
justement, là aussi, il y a une différence. Il y a une autre différence, c'est que Mediapart, c'est plutôt quel est, nous, notre agenda. Ce n'est pas à dépendre de l'information qui arrive. Bien sûr, il y a l'inattendu, l'imprévu qui peut arriver, un attentat demain. Bon, ben, voilà, ça, on ne savait pas que ça avait lieu. Ben, comment on le traite, bon, quand il y a eu aussi bien Charlie que les terrasses et le Bataclan, bon, ben, ça, on s'est tous mobilisés. Bon, ça arrive comme un événement qui vous requiert. Mais autrement, pour le reste... Notre obsession, c'est plutôt, nous, quel est notre agenda? Ça veut dire que même sur l'événement prévu, une élection présidentielle, un congrès de parti, un rapport qui va sortir, etc., j'en sais rien, c'est comment nous, on va le traiter. Le propre de Mediapart, c'est... Et c'est pour ça qu'il y a un pluralisme de la presse. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie dégradation depuis 20 ans. C'est une qui se ressemble. Ces hiérarchies qui se ressemblent, ce flux qui se ressemble. Le pluralisme de la presse, c'est que vous avez des menus différents, comme vous choisissez des restaurants différents. Ben nous, on vous propose des menus. Quand on a créé Mediapart, peut-être vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, non, je ne sais pas, quand on a créé Mediapart, même les sites de la presse de qualité étaient comme des blogs. Ils empilaient tous en hiérarchie. Moi, j'ai dit, on va faire analogique, on va faire des unes. On va faire une manchette. Elle va varier pendant la journée. Parce qu'un journal, c'est proposer des menus. Pour ça que notre logo, c'est un crieur de journal. C'est venez chez moi parce qu'il y a des choses particulières. Et donc, nous, nous mettons plutôt à distance cette pression. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Et d'une certaine manière, si le film vous a donné ce sentiment-là, c'est qu'il est fidèle à ce que nous sommes, justement.
Et après, le temps, de toute façon, c'est archi présent dans une rédaction. Enfin, je veux dire, à plein de... Donc oui, il y a le temps de... Enfin, il y a le temps de l'enquête, il y a le temps du coup de fil, il y a le temps... Et le temps de la présidentielle était un temps à part, enfin...
Oui, non, mais ça, c'est important, parce que ce que vous venez de décrire, qui est la réalité, c'est pas exactement... l'impression qu'on a dans le film, à cause de ce que vous avez expliqué, hein, c'est-à-dire la campagne présidentielle, bon, c'est du constant. Et là...
Le fil conducteur, 300 heures, à partir d'un certain... Je suppose, moi, j'ai vu que le résultat, mais je suppose qu'il y a eu la discussion de Naruna avec Naruna, de Naruna avec l'excellente monteuse, de Naruna avec Serge Lanoux, le producteur, quel est le fil de narration choisi? Et là, vous voyez bien, y avait cet événement qui, 2 ans après, en effet, peut paraître assez étonnant, vu ce que nous publions et ce que la réalité donne, qui est ces 2 entretiens avec Emmanuel Macron, une semaine avant de déclarer sa candidature et 2 jours avant son élection, le 5 mai. Donc voilà, donc ça fait, il y a un mode de narration qui fait, en effet, cette particularité. C'est pour ça que le titre depuis Mediapart dit bien, c'est un moment de la France. Dans ce chamboule-tout, cette formule que j'avais employée, rien ne se passera comme prévu, hein, être disponible à l'événement, à l'inattendu. Bon, bah, dans ce chamboule-tout, d'où va naître l'élection de Macron, depuis Mediapart, on essaye de saisir ce chamboule-tout. Et c'est ce qu'elle a fait. Après, comme de la même manière que Mediapart appartient à ses lecteurs et pas... Nous, on a notre vision de Mediapart, mais les lecteurs peuvent en avoir d'autres. De la même manière, vous, en voyant le film, vous voyez des choses, que, y compris absolument, peut-être qui échappent à Naruna ou qui m'échappent à moi. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, le film vit...
Oui, ça, c'est...
Le pays vit un peu à votre rythme, quoi, maintenant. Au rythme de Mediapart.
Ce serait bien prétentieux de dire qu'il vit...
Non, mais là, ces derniers mois, c'est vraiment ce qui se passe.
Bon, peut-être un peu, mais bon.
Alors, je ne sais pas si on fait des captations.
Allez-y.
Bah, vous vouliez poser encore une question.
Alors, ma question, c'était sur par rapport à la notion d'atelier. Ouais. Vous avez évoqué tout à l'heure. En fait, est-ce que vous avez voulu retraduire cette notion-là dans la mise en scène? Parce que justement, en fait, les gens ne sont pas présentés. Les journalistes, il n'y a pas de carton.
Ah oui.
Voilà qui ça, voilà quel jour. Voilà quel,
on ne
voilà
sait pas qui est qui, oui.
On ne sait pas qui est qui, et surtout, en fait, toute la rédaction n'est pas présentée tout de suite. En fait, ça veut dire qu'on voit des nouveaux gens apparaître et parler pendant tout le film. En fait. Juste le moment où on les repère, on peut les repérer quand on ne les connaît pas, c'est par les noms qui sont en dessous des articles. Et qui sont en général assez proches, c'est la personne qui vient de parler, donc on voit le titre. Et est-ce que vous avez consciemment voulu reproduire ça, en fait? Ce qui est important, c'est l'information, ce qui est important, ce qui est dit.
Ce qui est important, gens... c'est le collectif. C'est important, voilà. C'est le collectif, c'est-à-dire que le fait qu'on entende différents visages, différentes personnes parler, s'écharper, discuter, palabrer, parce que l'important c'est ce qu'ils font ensemble, en fait. C'est pas qui ils sont et est-ce qu'on les reconnaît ou pas et comment vraiment, enfin, pour moi je tenais beaucoup à ça. Alors l'effet que ça peut produire, c'est qu'en effet on reconnaît la moustache peut-être, enfin je veux dire, et pas, mais au final l'important c'est le collectif, c'est-à-dire que c'est une jeune femme derrière son ordinateur dans un meeting politique, un jeune homme qui s'interroge sur son vote, c'est pour tendre un miroir aussi, en fait. On fait quand même des films aussi pour ça, pour les moments...
Techniquement, excusez-moi, dans le meeting politique, c'était en caméra cachée ou pas?
Oh non.
Non, non, non.
Oh non, 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 jamais, ça me viendrait.
Comme c'est très très proche,
je me sens... Jamais. Il y a deux choses que je m'interdirais, enfin, a priori toujours, c'est la caméra cachée et le drone, parce que, voilà, il y a quand même... Non, bon. Non, elle savait que j'étais là, bien sûr. Et tout le monde savait que j'étais là, d'ailleurs. Enfin, je veux dire,
je posais la question plutôt par rapport à l'ensemble, hein, parce que ça pouvait déclencher des réactions.
Ben, ça en a déclenché. J'ai eu une conversation complètement surréaliste.
Meeting Fillon.
Oui, au meeting Fillon, enfin quelqu'un qui...
Au Trocadéro, là.
Oui. Qui était très déçu que je m'appelle Narguna. Il m'a dit, oh là là, mais vous aviez pourtant une tête de française. Enfin bon, c'était... Non, mais je n'étais pas en caméra cachée du tout. Non, jamais. Bon.
Bien. Il faut qu'on fasse nos petits entretiens, là.